italienne du restaurant Mato et émerveillez-vous du Vieux-Québec. L'Hôtel 71, voyagez en première classe chez vous. Informez-vous sur nos forfaits. En passant, le Mato, référence en cuisine italienne à Québec, bientôt à Lévis.
C'est déjà commencé, le Patro embauche pour le camp de jour Néo cet été.
Ah oui, ça me tente. J'ai juste des bons souvenirs de mes étés au camp. Là, je serais payé.
Imagine, une belle gang, du fun en masse, c'est bien payé, puis en plus, t'as toutes tes soirs et tes week-ends. Puis il me semble que je te vois bien passer l'été à jouer dehors.
C'est décidé, ma job cet été, ce sera le camp Néo du Patro de Lévis.
Je suis déjà sur le site du Patro. Il y a différents postes, et puis c'est super simple d'appliquer.
Rentre au patrolevis.com ou encore sur la page Facebook du camp jour Néo et rejoins l'équipe en deux clics.
96.9, la radio de Lévis.
Vous pensez tout connaître? Défiez le diable à l'émission L'Enfer est pavé de bonnes questions. Jouez en direct partout au Québec à l'adresse 96.9fm.ca/quiz. Répondez aux questions de connaissances générales et gagnez de l'argent. Tous les dimanches 17h dès le 13 février sur les ondes de CJMD 96.9.
Venez découvrir notre boutique Histoire de Bulle au 5209 Boulevard Guillaume Couture à Lévis. Produits de soins corporels de première qualité, entièrement produits à notre succursale de Saint-Georges. Que ce soit pour vous gâter ou pour un cadeau, Histoire de Bulle est l'endroit par excellence. Histoiredebulle.com.
Fromagerie Victoria. C'est l'hiver, restez au chaud dans votre auto. Notre service au volant est efficace et ça va vous permettre de vous délecter sans avoir à vous geler le c***. Pizza, lasagne, mac and cheese, panini, poulet popcorn, fromagerie Victoria,
C'est déjà commencé, le Patro embauche pour le camp de jour Néo cet été.
Ah oui, ça me tente. J'ai juste des bons souvenirs de mes étés au camp. Là, je serais payé.
Imagine, une belle gang, du fun en masse, c'est bien payé, puis en plus, t'as toutes tes soirs et tes week-ends. Puis il me semble que je te vois bien passer l'été à jouer dehors.
C'est décidé, ma job cet été, ce sera le camp Néo du Patro de Lévis.
Je suis déjà sur le site du Patro. Il y a différents postes, et puis c'est super simple d'appliquer.
Rentre au patrolevis.com ou encore sur la page Facebook du camp de jour Néo et rejoins l'équipe en deux clics.
Talk rock hip hop.
Talk rock hip hop.
C'est les salles des nouvelles encore. Oui, oui, information et divertissement. En mode podcast. Sauf pour une petite circulation par-ci par-là. Si ça va mal.
Ben, ça s'est pas tellement empiré depuis tantôt, même que j'aurais tendance à dire que ça s'est amélioré, notamment sur la rive sud où tout est ouvert à l'heure actuelle. Sur le pont aussi, ça s'est amélioré. Quoique sur de la capitale direction ouest, il n'y a pas vraiment de changement. C'est pas mal le seul secteur qui est au ralenti de façon majeure.
Doris, réaction sur l'entrevue avec Dominique Vien.
Écoute, je pense que je suis pas la seule. Là. J'ai quelqu'un qui écrit sur le texto. Est-ce que Dominique Vien a dit érection ou élection? Parce que je pense qu'elle a fait un petit... Ouais, un petit glissement vers érection, ça va et ça vient comme les élections, ça va et ça vient, mais là...
Dans ma mémoire, il y avait un R là-dedans, mais ça peut être un lapsus.
Ouais, je sais pas, mais j'ai passé le reste de l'entrevue à penser à ça, faudrait y demander.
Était-ce un lapsus freudien?
Ah!
Elle se sent à l'aise dans les salles des nouvelles, en tout
ouais.
cas, ça,
écoute. En tout cas, c'était érection, waouh, elle vient de me gagner au moins 5 points.
On l'aura dans deux semaines, mais là, pour le moment, on a à accueillir notre nouvel ami, Benoît Giroir. Du regroupement pour une véritable santé publique. Bienvenue dans les salles des nouvelles. Merci d'avoir accepté l'invitation.
Ça me fait plaisir. Je suis content d'être avec vous.
Aujourd'hui et aussi de façon probablement sur une base régulière par la suite, pour que les gens puissent te jauger puis qu'après ça, on puisse se référer à ce moment-ci dans les podcasts. Si le monde demande, c'est Guy, lui! On va faire une présentation de ta personne. Puis je veux... Peut-être pas y aller nécessairement en ordre chronologique. Tu es intervenu ici dans l'émission de Laurent Gaulin à certaines occasions, alors que tu étais porte-parole pour un autre regroupement que celui de la pour une véritable santé publique. Ça s'appelait comment déjà?
Les Entrepreneurs en Action du Québec.
Exact.
Qui est un regroupement d'entrepreneurs là, qui existe encore, mais qui est un peu maintenant, je te dirais, sur la tablette là, pour l'instant. Ouais.
Parfait. Alors là, tu as une formation dans le domaine des communications, parce que moi, c'est comme ça que j'ai entendu parler de toi. Tu communiques très bien, tu as des beaux talents de communicateur, OK? C'est de l'inné puis de l'appris sur le
oui.
tas.
Oui, écoute, la seule chose que je vais pouvoir te nommer, là, maman va être très contente, c'est que j'ai gagné à 15 ans le concours d'oratoire du Québec.
Hey, quand même!
Ben, quand même. Fait que c'est mon seul fait d'armes réel, mais non, j'ai pas étudié. Sinon, après ça, ben, dans mon CV, c'est 15 ans de lobby avec l'Union paysanne dans lequel j'ai eu constamment à devoir travailler ma capacité à communiquer les idées.
L'Union paysanne qui est toujours existante, là, oui. Mais qui, dans les belles années, faisait de la pression sur l'UPA pour briser des cartels, puis même aurait pu être une alternative carrément à l'Union des producteurs agricoles.
Oui, ben en tout cas, au moins une carte supplémentaire dans celle qu'on a, parce que pour l'instant, ben c'est ça, vous le savez encore, ça n'a pas changé. Au Québec, semble-t-il que les agriculteurs sont pas assez grands pour se choisir leur propre association.
Non, c'est canné, mais on est plus autoritaire qu'on le pense, on l'a vu avec la situation actuelle. Puis autoritaire, c'est pas une dictature, c'est la première dérive après un gouvernement démocratique. Mais est-ce que tu es agriculteur toi-même?
Non, je l'ai été pendant de nombreuses années. Je vais y retourner. Je me garde ça pour ma santé mentale. Ouais. Moi, c'est drôle à dire, mais j'ai des ruches. Fait que moi, c'est les ruches.
Mais ah bon?
Quand je nomme des ruches, généralement, les gens vont pas associer ça avec santé mentale. Mais je dois t'avouer que moi, ça me détend.
Okay.
Moi, ça m'oblige à être focus, à être là. Il y a un cerveau qui part à gauche et à droite facilement, donc c'est un moment de détente, mais non, je suis pas à temps plein, puis ça fait partie de ma vie, mais non, pas à temps plein.
D'accord, et là, t'es le porte-parole du regroupement pour une véritable santé publique, et on se jasait tantôt, tu m'as dit que ta première réalisation, ta première prise de conscience sur comment fonctionne ou fonctionne mal la santé publique remonte à quand tu étais à l'Union paysanne avec des histoires de listériose. 2008.
Oui, mais c'est parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se demander, parce qu'ils vont m'entendre à différents médias, différentes radios, ils m'ont vu à gauche, à droite, puis évidemment, je débarque pas bardé de diplômes, je suis pas l'expert XY, puis tout ça. Fait que c'est quoi le fil conducteur? En fait, si je viens d'une famille extrêmement politisée, dans laquelle la politique chez nous est importante, mais pas juste la politique au sens large, il y a une réflexion politique. Mon père est décédé cette année, mais tu sais, c'est un homme qui était vraiment, qui nous enseignait l'histoire, puis la transmission, puis l'importance du rôle démocratique. Bon.
Quelqu'un qui connaît l'histoire n'a pas le choix de s'intéresser à la politique.
Oui, automatiquement. Ça a été une des branches dans lesquelles j'ai même hésité à un moment donné pour devenir peut-être prof d'histoire.
Okay.
Mais alors, dans tout ça, ce qui est arrivé, c'est qu'à l'Union paysanne, en 2008, j'ai pris conscience, ça a été un premier contact comme individu avec la loi sur la santé publique, le fait qu'elle n'avait pas de garde-fou. Il y a eu une crisette de listériose au Québec. Puis c'est même pas... Si tu cherches crise, mais c'est pas une crise, c'est une crisette de listériose, surtout...
Qui voulait dire de quoi, maintenant qu'on regarde ça avec les yeux qu'on a réussi à se forger maintenant, annonciatrice. Et ça avait passé au bye-bye, il me semble, je me rappelle. C'est le MAPAC versus le lait cru, hein?
Oui, parce qu'ils avaient débarqué littéralement avec des chars d'assaut, en voulant dire que t'as un petit problème. Oui, il y a de la listériose, mais je veux dire, si tu parles aux Européens de la listériose, c'est une nouvelle qui ne fait jamais les nouvelles parce que ça fait partie de la vie de la gestion autour des fromagers, le contrôle, tu sais, puis tout ça. Puis aussi, ben, ils sont totalement ailleurs en termes de lait cru. Mais nous, au Québec, on avait à l'époque, en 2008, on avait 21 fromagers au lait cru. Une fois que la santé publique a passé sur le corps de l'industrie du lait cru, appelons ça comme ça, c'est une industrie naissante, mais qui était en croissance hallucinante, ben aujourd'hui, en 2022, il en reste 3.
Bon.
Donc, c'est ça. Donc, et là, j'ai pris conscience, c'est-à-dire que par mes contacts, à l'époque, c'était Laurent Lessard, ministre de l'Agriculture, en lui disant, Laurent, écoute, je m'excuse, mais rappelle tes chiens, là, en voulant dire, rappelle tes bulldogs qui ont été lancés parce qu'ils sont en train de... Écoute, si les gens se souviennent un peu de certaines images, ils chloraient du fromage dans des bennes avec des espèces de scaphandres devant les caméras. Il n'y a pas aucune industrie qui va survivre à un traitement comme celui-là, puis c'est exactement ce qui s'est passé. Laurent de me répondre, écoute, je peux pas faire grand-chose, la loi sur la santé publique leur donne le pouvoir de... Alors moi, je m'en vais creuser la loi, et là, je me rends compte, justement, dans mon éducation démocratique, il n'y a pas de garde-fou. Cette loi-là donne à peu près un sauf-conduit pour faire, en gros, ce que tu veux comme politicien.
Déjà, à l'époque, ce qu'on appelle la vaccination obligatoire était envisageable, était encastré là-dedans et c'était une option de mise de disponible au gouvernement.
Oui, puis ça devrait rassurer un peu les gens, dans le sens que, bon, lorsqu'on verse peut-être dans le complot, il faut avoir un peu de visée historique. La vaccination obligatoire, elle est dans la loi depuis 2001, et le gouvernement ne l'a jamais utilisée. Écoute, ils font pas tellement mieux en ce moment en mettant, en extorquant le consentement des gens par toutes sortes de pressions, le passeport vaccinal et tout ça, mais ils n'ont tout de même pas, ils n'ont jamais officiellement utilisé l'outil. Ils ont tenté de le faire là, auprès du secteur de la santé, mais ils ont même reculé. Donc, on peut dire que pour l'instant, depuis 20 ans, ils ne l'ont jamais utilisé. Alors, on ne peut pas donner tous les torts à l'État. Elle n'a pas abusé de l'outil comme tel, mais c'est peut-être le temps maintenant de l'encadrer un peu plus. C'est ça. L'État a besoin. Parce que cette loi-là, quand on vient de le vivre, cette loi-là peut amener à des dérives, à une politisation, et ben, les gens vont être impactés, puis on le voit. Là,
une belle allégorie tantôt, Ordon. Il y avait toutes sortes d'outils sur la table pour la mouche qui était la listériose à l'époque. Et jusqu'à, mettons, la bombe nucléaire, mais il y avait une tapette à mouche. Ils ont choisi la bombe nucléaire en premier.
Oui, c'est ce qu'on vient de voir aussi. Écoute, dès le départ, les scientifiques les plus mesurés dans le monde, OK, il y en a plein. Ioannidis, Jay Bhattacharya, bon, je ne vais pas nommer des noms que les gens ne connaissent pas, mais il y en a une panoplie qui disait... La façon de travailler, là, normalement, c'est vous devez protéger les personnes à risque. Déjà, on savait très rapidement qui sont à risque, parce que vous devez, en termes de santé publique, minimiser les impacts sur le reste de la société, puis vous devez cibler votre travail sur les personnes à risque. C'était ça qui était dit dès le départ. Hein? Ça n'a pas pris de temps, il y a des voix, on les retrouve aujourd'hui, c'est du début 2021, mais c'est pas ça qui s'est passé. Ça a été vraiment... Et là, c'est drôle, on recommence à les entendre. En fait, je veux dire, on relit notre journal de Québec, on relit soit TVA, et là, on commence à voir des gens qui parlent de mesures, qu'on devrait vivre avec le virus, qu'on devrait protéger les vulnérables. Mais c'est exactement ce qui était recommandé par les voix les plus mesurées du débat.
C'est la preuve ultime que l'hystérie médiatique, le sensationnalisme si répandu dans les médias, les scientifiques en charge sont pas imperméables à la chose et ça peut carrément décider de leurs orientations. Au final, ils ont été influencés énormément par cette dramatisation-là médiatique à la base.
Oui, pour moi, c'est clair. Je pense que je sais que c'est toujours sensible avec mes copains journalistes dans les médias d'en parler, mais il va falloir qu'on regarde le rôle des médias très québécois, parce qu'on peut se la poser la question, comment se fait-il qu'on ait été incapable d'avoir des débats? Je veux dire, moi, je m'abreuve depuis 2 ans de débats en Suisse, en Belgique, en France, évidemment, on en voit beaucoup, même avec des personnages qu'on pourrait citer comme controversés.
Oui, que là-bas, c'est pas un ombudsman sur le dos automatiquement si tu oses.
Exactement, et on n'a pas... Et alors qu'au Québec... Il faut se référer à le rapport, le Code Québec. Peut-être que ça ne dira rien à tes auditeurs. Il y a un sacré de bon petit livre qui avait été fait par...
Jean-François Lisée?
Les noms, c'était Léger.
Et
Pierre Duhem. Ouais. Puis j'oublie, il y avait un troisième, il était trois. C'était, en fin de compte, ils avaient écrémé 20 ans de sondage au Québec et au Canada pour comparer, pour essayer de tirer... C'est quoi un Québécois? Et il y avait un des traits qui était la notion de consensualité. Hein? On vire comme un troupeau. Au Québec, on peut voir, c'est une des rares places en Amérique du Nord, où est-ce qu'on peut voir des sondages basculer de 10 points rapidement. Un effet de troupeau.
On se rappelle du NPD, le départ, la vague orange, là, c'était un sondage par panel web vraiment très mal monté, non probabiliste. Et là, les gens ont voulu être de la gang qui créait un phénomène. C'est carrément
matérialisé. Oui, on s'appelle de même plus proche de nous, Mario Dumont. Dumont était considéré comme le futur premier ministre parce qu'il était en tête de tous les sondages. Et il s'est ramassé deuxième parti d'opposition. Donc, lors de son dernier mandat, avant qu'il quitte la DQ à l'époque, au tout début, les sondages le plaçaient très en haut. Il a fait quelques bourdes et à peine, mais cet effet de troupeau-là a fait basculer complètement.
Et les médias qui avaient oui, il y a de la subjectivité dans le cerveau de tous les journalistes. Il n'y avait pas nécessairement de sympathie pour la droite, alors ça a sauté sa spin sur le sensationnalisme là-dessus.
C'est ça, et ça, on l'a coulé, on l'a coulé. Exact. Bon, mais fait que je pense que dans cette crise-ci, est-ce qu'on pourrait peut-être pas dire poser la question, est-ce que les médias n'ont pas un rôle de santé publique? Parce que je comprends la notion d'information du public, mais allons-y plus loin. Vous êtes en état, par exemple, de guerre, vous êtes en état de pandémie. Les médias ont un rôle à jouer, un rôle qu'on espère positif en termes sur la santé mentale.
C'est ce qu'ils ont voulu faire. C'était pas de la mauvaise foi comme trop de monde essaie de le présenter. Ils se sont dit, si le monde a peur, très simple, ça va sauver des vies. Et probablement qu'il y a des gens de la santé publique qui les ont briefés au départ aussi en ce sens-là. Ça, c'est pas nocif en soi qu'il y ait des talks entre des médias puis des gens, des fonctionnaires en charge. C'est juste que ils ont été trop loin et ils ont pas vu des choses comme, moi j'en parle depuis avril 2020, l'effet nocebo. Puis toujours en 2022, c'est très difficile de les voir parler de ça. L'effet nocebo, c'est le contraire de l'effet placebo. L'effet placebo, ça a 7 à 15 d'incidence. Ça guérit du monde dans des tests. Et à l'inverse, si tu fais peur à des gens, n'en plus finir avec des chiffres.
Ça les rend malades.
Ben oui, ça remplit des hôpitaux.
Il y a de la nouvelle qui est sortie. Ben, en fait, elle n'est pas nécessairement de nouvelle, mais elle a été traitée par TVA aujourd'hui, celle sur les jeunes. Je pense qu'on parle de 25 % de hausse de l'anxiété. Je veux dire, les pharmaciens avec qui je discute, il y en a une trentaine dans notre groupement. Je veux dire, ce qu'ils me disent tous, c'est Benoît, on prescrit de l'anxiolytique à l'appel. Puis eux font pas nécessairement d'analyse directement, mais on le sait par le nombre. Nous, je peux savoir dans ma pharmacie, mais moi, quand j'ai 30 pharmaciens qui me disent la même histoire un peu partout au Québec, ben là, on le sait. J'ai hâte d'avoir des chiffres là-dessus plus formels, mais il va falloir qu'on finisse par aborder la question des dommages collatéraux, des mesures, parce que, en fin de compte, c'est tout ça qui nous permettrait de réviser, parce que la loi sur la santé publique, il faut se rendre compte qu'on a eu quelque chose qui est au-delà de la grippe, mais qui n'est pas non plus l'Ebola, et qu'on a raté le test. On a vraiment raté le test, et ça, on le sait, ça fait partie d'un monde mondialisé de presque 8 milliards d'êtres humains. Il va y en avoir d'autres.
Ben, c'est alors, ça. C'est garanti. Il n'y a aucun doute qu'il y aura d'autres nouveaux virus et qu'il y aura une tendance à partir en vrille encore qui sera parfaitement plausible à adopter. Alors, il faut s'adapter. Puis on sait une chose, avec le SRAS de 2003, les rapports qui avaient été produits par la suite face à ça étaient en ce sens de ne pas faire d'exemple de casse dans une société où on les ostracise parce qu'ils n'ont pas pris tel médicament ou de pas virer hystérique, là, pour le résumer peut-être trop simplement. Ça a été le contraire qu'on a fait. Même si on prend des leçons maintenant, on pourrait répéter et même empirer cette erreur-là avec un virus qui pourrait être pire éventuellement.
Oui, puis c'est là qu'est un peu le travail que j'essaie de faire, parce que c'est un peu ça, les auditeurs peuvent se dire, ben, d'où est-ce qu'il part? Ben, c'est ça, c'est que moi, qui étais rendu complètement ailleurs de l'Union paysanne, quand j'ai vu mes réflexes politiques sont là. Quand j'ai vu M. Legault revenir à la charge en disant que sa stratégie, c'était d'ouvrir, fermer, ouvrir, ouais, fermer. De un, très clairement, comme entrepreneur, j'ai dit, il va fermer mon commerce. Ouais. Deux, parce qu'il n'y a pas un commerce qui peut survivre à ça. D'ailleurs, ça tombe encore, ça continue à tomber depuis 2 ans. Et ensuite de ça, c'est que très clairement, tu te rends compte qu'on a politisé ça et que les fameux garde-fous, il n'y en avait pas. Fait que, peu importe, ce qui, encore aujourd'hui en chambre, il a répété qu'il avait suivi les recommandations. C'est faux. On a de nombreuses preuves là-dessus en disant « j'ai été plus loin ». Mais si tu as été plus loin, c'est pas parce que tu as suivi. En allant plus loin, tu n'as pas suivi.
C'est ça. Santé publique est faite ainsi. Ils font des recommandations. Ils les fabriquent en sachant qu'il y aura un autre tri de fait par les politiques parce qu'eux devront prendre en compte des perspectives plus larges, dont, exemple, l'économie. Qu'est-ce qui paye le système de santé à moyen et long terme? C'est pas aux gens de la santé publique à penser à ça. Eux autres, ils voient la réalité à court terme, puis ils doivent présenter des solutions à ça dans un éventail qui sera après analysé. Et là, dès le départ, on a vu que ben, Arruda est assis là, puis c'est la santé publique. Puis, man, j'ai demandé à la santé publique si je pouvais faire telle, telle affaire. C'était fallacieux dès le départ. Et des deux côtés, on a exagéré. Aller plus loin, ou des fois pas écouter aussi, il y avait des choses, des recommandations de mesures qui n'ont pas été prises en compte.
Mais rappelez-vous, une des choses qui pour moi qui était un point tournant, là, c'est Pascal Bérubé en chambre qui demande à Arruda concernant le premier confinement, aviez-vous recommandé? Non, ce qu'ils avaient recommandé était très clair. Fin de compte, tu sais, souvent on a fait poser sur Arruda de nombreux griefs. Certains sont peut-être vrais, mais moi, c'est une des choses qui m'a un peu réconcilié en voulant dire que je crois que ses conseils étaient meilleurs que ce qui a paru à la télé. Là. Mm-hmm. C'est-à-dire que lorsqu'il a dit très clairement, nous avions recommandé de garder ouverts les restaurants et les gyms à 50% de leur capacité, puis il le mentionne afin de préserver la santé mentale des gens. Voilà ce qui est un rôle de santé publique. Et qu'est-ce qu'a fait notre premier ministre? Il a, lui, tout fermé, peu importe. Et il s'en est même vanté.
Oui, j'écoute CNN, moi. Je vois des bonnes idées, puis je les applique.
Ouais. Oui, c'est ça. Mais aujourd'hui, on récolte les dommages collatéraux. J'ai encore pris conscience d'une entreprise là, dans la danse qui viennent de fermer après, je pense qu'ils ont une existence de plus de 10 ans. L'entreprise, le propriétaire a fait une espèce de petit live là, en parlant de... Il dit là, j'y arrive plus, on y arrive plus, on ferme. Fait que c'est une énième entreprise et il y en a plein. On parle de milliers au Québec qui ont fermé depuis un peu plus d'un an.
Qui vivotent
en raison
avec,
des mesures. Arrêtons de dire en raison de la pandémie, en raison des mesures qu'ils ont mis à bout. Là.
On essaie de nous présenter ça comme les mesures, c'était aussi vrai que leur efficacité était là, que le virus existe. Ça, le mot fallacieux ces temps-ci me sert souvent, mais à cet égard-là, très utile, c'est complètement absurde. Et il faut qu'on se débarrasse de ces absurdités-là. Moi, j'en fais une priorité à l'émission. Merci de contribuer à ça aujourd'hui.
Ça me fait plaisir.
Benoît Giroir, on se reparle prochainement. Puis en attendant, on peut inviter les gens à aller se mettre membre du groupe. Il y a un groupe Facebook, le Regroupement pour une véritable santé publique.
Oui.
Est-ce que c'est un OBNL aussi? On peut-tu faire un don?
Oui, c'est un OBNL. Oui, c'est, on regroupe... Tu vois, on a mis sur pied le manifeste pour une véritable santé publique dans lequel on dit clairement vers où on veut aller. Parce que pour moi, je le dis, il faut se préparer à la prochaine pandémie. Celle-là, malheureusement, je pense qu'on l'a raté. On l'a raté de bout en bout. Il faut déjà préparer la suivante parce qu'en politique, c'est tout le temps très long. Et il faut se préparer à l'autre. Puis quand je dis se préparer à l'autre, ça veut dire être capable d'avoir des politiciens plus allumés puis plus de garde-fous qui manquent. Donc, le regroupement, on regroupe à peu près 700 médecins, scientifiques, universitaires qui veulent voir émerger une voix un peu plus centrale, un peu plus posée, qui va être capable de faire des changements. Parce que moi, j'ai des jeunes enfants... j'ai vécu 2008 dans les listériose. Là, je viens de vivre cela depuis 2 ans. Les dommages sont importants dans ma famille, dans mon commerce. C'est pas vrai que je vais me retaper un autre truc comme ça dans 5 ans.
Il faut encadrer les pouvoirs publics.
Les pouvoirs publics. C'est une clé importante de la démocratie.
Des démocraties libérales. Tu me fais penser, juste en terminant,
ouais.
Tu sais, on est tellement sûr de nous, alors qu'on a mal fait, que ça arrivera pas demain qu'on tirera les bonnes leçons. J'ai en tête une étude de quelqu'un de l'Union européenne, une organisation de santé publique de l'Union européenne, dont j'oublie le nom précis, qui s'était penché sur l'Afrique parce que les pays en voie de développement ont eu 10 fois moins de morts avec les mêmes calculs que les pays occidentaux. Et ils mettaient le doigt sur quelques phénomènes intéressants qui ont sauvé des vies, mais ils réussissaient à conclure en disant « faudrait qu'ils vaccinent plus tout le monde, là ». Ça n'a pas marché ici, le tout au vaccin.
Tu sais, je veux dire... Ça, c'est rien. On tombe pas dans le complotiste en disant qu'il va falloir adresser la question de la vaccination de masse et répétée. La vaccination est un outil extraordinaire.
En général, ben oui.
Et je vais dire qu'en ce moment, je suis abasourdi de rencontrer des scientifiques qui me disent « Écoute, le gouvernement est en train de me rendre anti-vaccin. » Parce que la façon qu'ils ont géré la vaccination comme étant la seule bouée de sauvetage, de un, ils ont vendu du rêve aux gens. Mm-hmm. Parce qu'on se rappelle... Malgré tout ce qui a été dit, les gens, dans le message, c'était que ça nous protégeait réellement. Puis d'habitude, on s'attend à ça.
95% d'efficacité.
C'est ça. Et c'est le contraire. J'ai sorti un papier ce matin sur Twitter là, qui démontrait très clairement que ils considèrent que triple vacciné ou quelqu'un qui a attrapé le virus sur un même pied d'égalité en termes d'immunité. Ouais. Donc, ça veut dire que ton vaccin, son efficacité, on va-tu finir par le dire, elle est moyenne. Donc, c'est pas de jeter le bébé.
Non, attends, Benoît, ben là, ça prévient les formes graves. Hey, c'est Omicron. Les formes graves sont déjà prévenues par sa faiblesse. Non, il sauve
de... On se garde ça pour une autre fois. Si tu veux, on en parlera, ça me fait plaisir parce qu'il y a vraiment des angles morts qu'on veut pas regarder, mais il va falloir un jour commencer à tomber là-dedans, comme on l'avait fait pour le H1N1, qui c'était, il faut se rappeler, le H1N1 qui s'était avéré un pétard mouillé, qui avait amené à une réforme de l'OMS, qui avait été abondamment traité ici par des scientifiques ici. Et en passant, hein, qui avait été le champion de la vaccination du pétard mouillé? C'est le Québec. C'est le Québec. Oui. Mondialement, par 100 000 habitants, qui avait le plus vacciné contre le H1N1? C'est au Québec. Fait qu'il y aura peut-être une étude de sociologue à faire là-dessus. Ouais,
comme on aussi le fait que supposément, on est moins susceptible d'écouter de la sensibilisation que des Suédois. Pas raciste, pas en tout ça. Merci, Benoît Girouard. C'est
un plaisir
de te parler. On suit le regroupement pour une véritable santé publique sur Facebook. Et on répète aussi que c'est une OBNL. Quelqu'un des commentaires avant qu'on aille à la pause. Je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon. On se divertit avec Laurent Gaulin et son quiz. Que j'espère bon, là, cette fois-là. J'espère pas pogner toutes les maudites questions. C'est parti de l'autre côté de ceci.
Hey yo, guys, c'est Tito, Battle Axe Warrior Québec. Vous écoutez CJMD 96.9.
Vous pensez tout connaître? Défiez le diable à l'émission L'Enfer est pavé de bonnes questions. Jouez en direct partout au Québec à l'adresse 969fm.ca/quiz. Répondez aux questions de connaissances générales et gagnez de l'argent. Tous les dimanches 17h dès le 13 février sur les ondes de CJMD 96.9.
Rénover cet hiver avec le groupe DBL, votre expert en toiture et construction à Québec et Lévis. Pourquoi attendre à l'été pour rénover? La rénovation intérieure peut se faire dans le confort et ce même cet hiver. Vous pensez refaire votre salle de bain, aménager votre sous-sol ou simplement embellir votre résidence ou votre commerce? Groupe DBL dépassera vos attentes par l'engagement de ses équipes hautement qualifiées en utilisant que des produits de performance supérieure. Groupe DBL cumule plus de 40 ans d'expérience. Planifiez vos projets dès maintenant en contactant Groupe DBL au 418-681-2522 ou en ligne à groupedbl.com.
Venez découvrir notre boutique Histoire de Bulle au 5209 Boulevard Guillaume-Couture à Lévis. Produit de soins corporels